à voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Julie Gacon rencontre Isabelle Autissier. Ce soir, retour sur Terre. Bonsoir Isabelle Autissier.
Bonsoir.
Hier, nous avons affronté la tempête avec vous. On a réduit la voile, on a dématé, chaviré, sensi, cabané. Ce soir, on rentre. C'est la dernière ligne droite vers notre point de départ. Nous arrivons au Cap Horn, signe de délivrance.
Oui, et puis évidemment un grand symbole. On dit beaucoup que c'est l'Himalaya des marins. C'est quand même un endroit où beaucoup, beaucoup de marins ont chaviré, ont coulé. C'est un endroit à la fois très beau et très dangereux pour un certain nombre de raisons maritimes. Il y a plus de vent, il y a plus de mer, il y a du courant, il y a ces hautes falaises. Donc, on est toujours un peu tendu quand on est en approche du Cap Horn. On se demande un peu comment ça va se passer. Quand on est devant, on est juste médusé. On est juste subjugué parce que c'est beau. C'est quand même de la montagne, très escarpée, très torturée, comme ça, des falaises. Derrière, il y a ces arrière-plans de forêts primaires patagoniennes. Il y a les glaciers, il y a les hauts sommets tout déchiquetés. Enfin, tout ça est quand même très, tout à fait magnifique. Et on a cette pensée, oui, pour les autres marins. Et puis, voilà, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon tourner le coin, mettre le clignotant, tout ce que vous voulez. C'est vrai que ça signe quand même la fin de l'océan Austral. Et donc, après, une remontée de l'Atlantique, quand on fait ce genre de course, donc vers des mers plus tranquilles et plus avenantes.
Voilà, c'est cette dent volcanique à la pointe sud du Chili où il pleut 300 jours par an. Racontez-nous, Isabelle Autissier, votre premier Cap Horn en 1991, 55 degrés 58 sud et 67 degrés 17 ouest.
Bravo! Alors, il y a des journalistes qui ont écrit que c'était la tempête et c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, je leur ai dit, mais pourquoi vous avez écrit ça? Ils m'ont dit, ça aurait été tellement mieux. Et j'ai eu la chance, la première fois que je passe le Cap Horn, il fait beau. Il fait très calme, un petit peu gris comme ça, un peu brumeux. Et il y a cette silhouette qui se dessine. Et puis tous les marins qui vont là-bas l'ont tellement regardé dans des films, des photos, des livres que on l'a complètement dans l'œil, cette silhouette du Cap Horn. Mais que là, en fait, c'était voilà, il avait ce cap avait des allures de trucs comme ça, un peu dans ses voiles, comme un peu pudique, un peu tranquille, un peu. Et c'était très étonnant. Et du coup, j'ai bien aimé quand même parce que j'ai vraiment pu le savourer. C'est sûr que si on le passe dans la tempête, on est un peu occupé par son bateau et par les vagues, on y pense moins. Mais là, voilà, c'était quand même aussi l'aboutissement pour moi d'une partie de ma carrière de marin. Quand j'étais petite fille, je rêvais du Cap Horn. Et puis là, ça y est, j'y étais, quoi. Vous savez que la tradition des marins du 19e voulait que les caporniers étaient une forme d'aristocratie maritime et se reconnaissaient par un anneau d'or porté à l'oreille gauche. Ce que nous avons fait les uns et les autres à l'arrivée de l'étape pour ce premier tour du monde, on s'est réciproquement offert l'anneau d'or et on s'est fait percer l'oreille, même les garçons. Voilà, parce que c'est aussi bien d'avoir ce fil qui nous relie aux marins du passé.
Alors, est-ce que vous avez remercié Neptune et Éole, les dieux de la mer et du vent, de vous avoir laissé passer? C'est ce qui se faisait aussi.
Oui, alors oui, voilà. Je crois. Enfin, bon, moi, j'ai pas fait de cérémonie quelconque, mais oui, je pense que oui, c'est une façon de remercier son bateau, l'équipe qui l'a préparé. C'est évidemment une journée quand même très particulière dans un tour du monde.
On évoquait dans le premier épisode Vito Dumas, le premier solitaire à le franchir en 1943. Il lui dit que me vaut ce privilège, même après avoir réalisé de fantastiques traversées, tant qu'il me reste encore 1000 nautiques, donc 1852 kilomètres, pour embrasser ma mère. Bon, Vito Dumas était argentin, pour vous, il reste encore 6000 milles marins avant la maison.
Oui, oui, mais bien sûr, mais je crois que je disais ça au début de semaine. Il faut regarder l'étoile, et l'étoile, c'est le port à l'arrivée, et en même temps, c'est mille après mille. Et chaque journée est différente, et chaque mille est différent, chaque ciel est différent, chaque vague est différente. Et voilà, faut les prendre les unes après les autres, tranquillement, en essayant de faire le mieux possible, et faut pas être trop impatient non plus.
Et non, car l'anticyclone de Sainte-Hélène veille.
Oui.
Quel cauchemar!
Ça peut être un cauchemar. Il y a deux anticyclones à passer, un dans l'hémisphère sud et un dans l'hémisphère nord, celui des Açores. Et évidemment, en général, qui dit anticyclone dit manque de vent. Alors bien sûr, notre métier de marin va être d'essayer de passer sur le bord pour garder un petit peu de vent, mais il est assez facétieux, cet anticyclone. Il fait des bulles comme ça de temps en temps. Et des fois, effectivement, on se retrouve un peu coincé là-dedans. Je ne veux pas dire que c'est le pire pour les coureurs, mais c'est très éprouvant et au moins aussi éprouvant en tout cas que le mauvais temps, parce qu'on n'avance plus. On a toujours peur que les petits copains trouvent quelques malheureux nœuds de vent pour avancer un peu et à ce moment-là prendre un avantage qui parfois est définitif. Donc on est quand même dans des tensions intellectuelles et mentales assez fortes quand il n'y a pas de vent, alors que les gens imaginent que c'est tranquille. Ben non, le manque de vent, c'est pas du tout tranquille.
Alors que vous, pendant votre Vendée Globe, vous avez même l'impression que l'anticyclone vous suit, que vous essayez de le déjouer, mais qu'il vous suit tout le temps.
Oui, c'est vrai qu'il y a des situations météo qui sont plus compliquées que les autres. J'ai vécu sur mon premier tour du monde une situation avec cet anticyclone, au contraire, où j'ai vraiment trouvé le à me faufiler, on va dire, entre les bulles. Et puis des fois, c'est pas tout le temps ça, quoi. Donc, là aussi, je crois qu'il faut essayer de rester concentré, essayer de pas s'énerver. C'est pas toujours facile, mais je pense que voilà, il faut profiter du moindre souffle. En même temps, c'est magnifique, hein. Une mer où il n'y a pas de vent du tout, où on est posé, y compris les albatros sont posés parce qu'ils peuvent plus décoller. Donc, on est tous là en train d'attendre un petit souffle. Ça a un côté assez poétique aussi, mais voilà, c'est des fois une poésie dont on se passerait.
Une partie d'échec. Et un beau jour, enfin, vous apercevez au loin les sables d'Olonne. Ça y est, c'est ouais. Le retour.
Je pense que d'abord, on la sent, la terre. Surtout si on a un vent, évidemment, qui vient de terre, ce qui peut être en situation hivernale en Europe assez fréquent. Alors, on s'y prépare, on le sait sur la carte, on le voit, on se dit, bah, tant de milles, je vais voir quelque chose. Malgré tout, c'est quand même toujours un choc. C'est quand même toujours... boucler la boucle. La planète est quand même très petite. On en a fait le tour à la voile. Il a fallu à peine quelques semaines, quelques mois pour le faire. On a rempli le contrat. On ramène le bateau, on revient. C'est aussi, bien sûr, le moment où on va retrouver ce qu'on aime. On va retrouver son équipe. On va retrouver aussi les joies de la Terre, parce que la Terre est pleine de joie. Elle est pleine de problèmes, mais elle est pleine de joie. Donc voilà, c'est un passage. Et autant il y a eu aussi, on est entré en mer quand on est parti, autant là on va entrer en terre, si je puis dire. Et il faut un peu se préparer dans la tête à sortir de sa solitude, à sortir de... C'est quand même une forme de violence. C'est une violence sympathique, j'allais dire, parce que rentrer, c'est sympathique. Mais oui, on était dans sa forme de petite routine, soit son bateau, l'océan, voilà. Et puis tout va changer tout d'un coup, quoi. En quelques minutes, bon, on voit la terre, mais aussi après, en fait, la vraie rupture, c'est le premier bateau qui arrive. C'est le premier hélicoptère qui vous survole. Et puis là, ça y est, c'est fini, quoi.
C'est au premier qui vous rejoint, c'est ça? Les vedettes s'avancent?
Oui, moi, sur le Vendée Globe, c'était vraiment sympa. En fait, je me suis approchée de la terre de nuit. Et j'étais assez vigilante, parce qu'en arrivant près des Sables d'Olonne, il y a beaucoup de bateaux de pêche. Et j'ai vu un bateau de pêche qui s'approchait, et moi je trouvais qu'il s'approchait vraiment dangereusement. Donc je l'appelle en VHF, hein, par radio, pour lui dire attention. Et le type me dit non, mais je viens exprès, je vous cherchais, je voulais être le premier à vous voir. Et j'ai trouvé ça tellement joli que c'était sympa, parce que c'était une forme de solidarité aussi entre marins. Et c'était très beau. Et voilà, j'étais contente. Donc ils sont venus pas trop loin, et on s'est fait des petits signes, c'était sympa.
Bientôt le chenal. Le ponton, la première conférence de presse, alors que pendant plus de 100 jours, vous n'avez parlé qu'à votre bateau, aux nuages et à la mer, nous disiez-vous.
Oui, alors il y a les moments extrêmement forts et tout simples de se jeter dans les bras de sa famille, de son compagnon, de son équipe, qui a peut-être pas dormi ou mal dormi pendant tout ce temps aussi. Et puis il y a quand même si on le sait, avant, il y a quand même un peu ce choc des gens qui sont là. Je disais en début de semaine que quand on part avec le rêve des autres, qu'il faut l'affronter, qu'il faut le porter aussi sur ses épaules, ce rêve des autres, et que là, ces gens-là sont là pour vous dire, ben oui, vous avez réalisé nos rêves à nous. Enfin, c'est quelque chose de très incroyable. C'est assez incommunicable, si ce n'est que les gens sont là. Voilà. Ils sont là parfois par dizaines de milliers. Alors évidemment, ça chante, ça crie, ça pleure, ça boit des coups, c'est très joyeux, très bon enfant. Mais il y a quelque chose de très profond qui passe, je trouve, qui est de l'ordre d'abord de la gratuité. Cette émotion qu'on partage en commun, elle a quelque chose de complètement gratuit. C'est complètement gratuit d'aller jouer à se poursuivre à la voile autour des océans, même si le bateau il coûte de l'argent. Mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, si ce n'est à ça. Ça sert à accomplir des rêves, ça sert à porter des rêves, ça sert à créer une chaleur humaine, ça sert à avoir de l'émotion. Et en cela, ça sert la communauté humaine. Et je pense que c'est ça que nous, on vit quand on revient. On a fait une petite pierre, hein, mais on a mis une petite pierre dans la communauté humaine. On a fait ce truc-là, qui est le truc qu'on sait faire. Voilà, et ça, c'est fort.
Mais vous, Isabelle Autissier, qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez peut-être sans doute même entendu le récit, par exemple, du navigateur Jean-François Coste, 163 jours en mer en 90, et qui dit qu'une fois terminé, il a dû prendre l'avion pour New York tout de suite pour aller au musée d'art moderne. Il avait besoin de voir des couleurs, du rouge, du vert, du jaune. Est-ce qu'il vous est arrivé de sentir, en arrivant sur Terre, que la folie n'était pas loin?
Je dirais pas ça, non. Moi, j'ai jamais ressenti ça en termes de folie. Mais c'est vrai que on peut avoir besoin de retrouver des racines, de se réapproprier la terre, de se réapproprier la vie des humains. Et puis, c'est drôle comme on oublie les choses. Moi, j'ai un souvenir qui est un peu dérisoire, mais que j'aime bien raconter parce qu'il est... Donc, évidemment, quand on revient, il y a toutes les télévisions, puis on va passer en direct sur tous les JT. Et donc, on est là avec l'écran de contrôle, vous savez, le moniteur, pour qu'on voit le moment où il faut intervenir dans le JT. Et avant les informations, il y a la publicité. Hein. Moi, je vois ça aujourd'hui, comme tout le monde. Bon, ben, je ne fais pas attention. Et tout d'un coup, quand on revient de 3 mois de mer et qu'on revoit les publicités, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi on est en train de me parler? De nourriture pour chiens et chats, de voitures, d'assurance, de trucs. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Bon, on ne peut pas dire qu'on a oublié, mais tout d'un coup, on est frappé parce que les valeurs qu'on a développées en mer, ce à quoi on a rêvé, ce qu'on a vécu, avaient tellement rien à voir. Alors, ben évidemment, on va s'y refaire, comme tout le monde, mais on va se souvenir de son numéro de carte bleue, et puis voilà. Mais je trouve ça assez salutaire quand même, c'est qu'à un moment donné, on se dit que pendant ce temps-là, pendant le temps en mer, on a porté autre chose. On a porté quelque chose qui, en tout cas, moi, me paraît plus fondamental, et que les gens qui viennent vous voir à l'arrivée, ou les gens qui vont partager ce que vous avez vécu, sentent comme étant quand même plus fondamental. Donc, il y a quelque chose qui se passe.
Si je vous parle de folie, c'est aussi parce que vous vous êtes intéressé à celle d'un navigateur britannique qui, en 68, prend le large pour un tour du monde, lui aussi, et qu'on ne retrouvera jamais.
Oui, ça a été mon premier roman, « Seule la mer s'en souviendra », qui est inspiré, on va dire, de la vie de Donald Crowhurst. Mais lui, c'est un peu le contraire. Lui, c'est quelqu'un qui n'est en fait pas fait pour naviguer en solitaire. Il se trompe d'histoire, il se trompe de rêve. Et il va partir dans de très mauvaises conditions. Et lui, il va devenir fou en mer, parce qu'il ne supporte pas, au fond. Il a raconté des histoires à tout le monde pour dire qu'il allait être un grand héros et qu'il allait gagner la course. Et arrivé en mer, il ne peut plus mentir à personne, puisqu'il est tout seul. Et c'est là que ça se passe mal. Au fond, c'est le contraire de moi, ce que j'ai vécu, qui au contraire a été pour moi une ouverture, une découverte et quelque chose d'extrêmement positif. Mais oui, bien sûr, ça peut arriver.
Lui, Donald Crowhurst, il ment à son équipe quand, très sporadiquement, il arrive à joindre par téléphone sa femme ou son coéquipier.
C'est-à-dire que Crowhurst, il se trouve dans une situation... il a tellement, entre guillemets, survendu son affaire avant de partir... qu'il est incapable de dire tout simplement, et puis il a des enjeux financiers importants, etc. Donc il est incapable d'arrêter, il est incapable de dire que ça se passe mal. Et donc il se laisse entraîner dans le pire, qui est de mentir, et il s'invente des records, et il s'invente de fausses positions, et il va s'inventer un tour du monde, alors qu'il ne va pas quitter l'Atlantique. Et il va essayer de faire croire qu'il a fait le tour du monde, qu'il a passé le Cap Horn et qu'il revient. Donc évidemment, là on atteint des sommets qui sont de la maladie mentale, enfin qui sont des expressions d'une maladie mentale.
C'était ce même tour du monde qui a vu Moitessier envoyer un mot, quand il passe pour la deuxième fois le cap de Bonne-Espérance, il catapulte un message sur un cargo à l'aide d'un lance-pierre. « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Vous n'avez jamais eu envie, vous, Isabelle Autissier, de vous détourner de la route du retour et de vous installer définitivement quelque part ?
Non, parce que je pense que j'ai réussi à sauver mon âme en rentrant. Je comprends un peu ce que voulait dire Moitessier, qui était dans une époque post-68 où voilà, lui, il était dans cet état d'esprit contre les médias, contre la pub, contre... voilà. Je pense que nos aventures d'aujourd'hui, celles que j'ai vécues en tout cas, sont évidemment cadrées. Et quelque part, les gens qui me sponsorisent, ils me font confiance. J'ai pas le droit de trahir leur confiance non plus. Ils me font confiance, ils me confient en quelque sorte des sommes d'argent importantes pour que je construise un bateau, pour que je me prépare. Voilà, je leur dois quelque chose. Je peux pas leur dire tout d'un coup, bah écoutez, non finalement, j'ai pas envie. débrouillez-vous, moi je m'en vais. Non, ça se fait pas. C'est des gens aussi qui m'accompagnent en dehors de parfois de relations amicales, mais même c'est des gens qui m'accompagnent dans mon aventure. Donc oui, il faut revenir. Et puis revenir, c'est repartir. Revenir, c'est tout de suite se dire que voilà, dès que j'arrive à terre, ou peut-être même parfois avant, j'ai déjà plein d'autres projets en tête.
Revenir, c'est repartir, mais plus pour la course. Et un jour, vous décidez d'arrêter la compétition et la course. C'est une décision que vous prenez en mer. Lors de votre dernière traversée, vous dites c'est la dernière ?
Non, pas dans la dernière, dans l'avant-dernière. C'est-à-dire le Vendée Globe. C'est mon troisième tour du monde. Et quand je suis en mer, je réfléchis à ce que je vais faire après. Et je me dis, bon, c'est bien. Et en même temps, un jour, il faut en sortir et un jour, il faut faire autre chose. Donc, allez, je m'en fais une petite dernière. Je participe encore une fois à un tour du monde en solitaire. Mais je me promets, je me jure que ce sera le dernier. Parce que sinon, je peux en faire 5, je peux en faire 10. Et à un moment donné, il faut que j'ai le courage et l'énergie de dire que j'arrête ça et que je me lance dans autre chose. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je vais effectivement participer sans finir, puisque le bateau va se retourner une dernière fois à une course autour du monde. Mais je me dis, bon, voilà, page blanche.
Est-ce que vous célébrez ça avec celui qui vient vous sauver lors de ce dernier tour du monde, qui est le skipper Giovanni Soldini? Je crois que vous dormez au moment où il arrive, il frappe sur votre bateau pour vous dire « je suis là, sors ».
Non mais c'était une situation incroyable, faut voir que mon bateau il est à l'envers. Hein. Et j'ai à l'arrière, j'ai fait fabriquer par mon équipe, parce que j'ai pensé que ça pouvait arriver, un petit hublot à l'arrière pour voir ce qui se passe et pouvoir rentrer et sortir. Et effectivement, ça fait 24 heures que je suis dans le bateau à l'envers. Et au bout de 24 heures, je suis fatiguée. À un moment-là, je m'endors. Et comme il tourne autour avec son bateau, il crie, mais j'entends rien parce que moi, j'ai le bruit des vagues, etc. Il finit dans sa trousse à outils par prendre un marteau qu'il lance sur le bateau. Et à ce moment-là, ça me réveille, j'entends un boing. Et tout de suite, je me dis, ah, Giovanni doit être là. Et c'est vrai que, bon, je raconte ça comme ça, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Je regarde par mon petit hublot et je le vois qui passe avec son bateau, il saute sur le pont comme un fou, il crie, il est complètement excité. Et puis du coup, je vais gonfler mon radeau de survie et je vais m'éloigner pour aller vers lui et vers me récupérer. Donc tout ça est une histoire humaine absolument incroyable, magnifique. C'est une belle histoire de copain, tout simplement, c'est une belle amitié.
Et là, vous êtes en route avec lui pour voilà, l'arrivée vers... c'est la DER, quoi, ça y est, vous avez décidé, c'est la dernière pour vous. Vous parlez de quoi ? De quoi on parle quand on vient, en fait, de... Enfin, lui vient de vous sauver, vous, c'est votre dernière. De quoi vous avez
Alors,
parlé ?
Qu'est-ce on que parle vous avez beaucoup fait ? Parce qu'on est bavards tous les deux, parce qu'on a besoin de parler, parce que Giovanni, un an avant, a fait un tonneau comme moi, et que dans cette histoire, en équipage, il a perdu son meilleur ami. Et donc, pour lui, c'est très fort. Il a, un an avant, perdu une vie, un an après, il en a sauvé une. Que pour moi, évidemment, c'est très fort aussi, toute cette histoire. Et on passe notre temps à, tout en faisant cuire les pastes, à échanger. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Voilà, on est dans ces espèces, vous savez, de discussions quand on a des bons copains avec qui on s'éternise à table avec un café, deux cafés, trois cafés. Et puis, on a toujours envie de parler parce que on échange des choses qui sont parfois futiles et parfois profondes. Et ce qui est extraordinaire pour nous, c'est qu'on est dans notre petite bulle. On est à ce moment-là au plein milieu de l'océan Pacifique, pratiquement le plus loin de tout et de tout le monde. Il faut imaginer que quand on est au milieu de l'océan Pacifique, l'être éventuellement le plus proche de nous, c'est les gens qui sont dans la station spatiale. Ils sont beaucoup plus proches de nous que le premier être humain à Terre. Donc voilà, faut voir, quand on est au milieu du Pacifique, on est loin. Donc on est là, tous les deux, en train de papoter.
Bon, vous avez tenu la promesse que vous étiez faite à vous-même et peut-être à vos proches, vous avez arrêté la course, et depuis quelques années, vous n'embarquez plus seulement avec des marins. Vous embarquez aussi sans doute un peu seul, mais surtout sans cette injonction de la vitesse. Et ça fait quoi de naviguer sans devoir aller vite ?
Alors, c'était une promesse que je m'étais faite aussi. Et en blaguant, je dis qu'après avoir essayé de naviguer le plus vite possible, j'essayais de naviguer le plus lentement possible. Parce que l'idée que j'avais, c'est d'aller savourer ces endroits. J'étais passée 4 fois devant le Cap Horn à toute vitesse. J'avais trouvé ça magnifique. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, il faut que je revienne là, il faut que je me perde dans ce dédale de cailloux, il faut que j'aille dans toutes ces petites baies, il faut que je voie le jour, la nuit, il faut que... Donc c'est ça mon idée, après ces tours du monde, c'est d'avoir un bateau, un bon bateau, solide, un VTT des mers en quelque sorte, avec lequel je puisse aller partout et savourer, et prendre le temps, et vous savez, le temps c'est la seule chose qu'on ait. Quand on aime les gens, on leur donne du temps. On passe du temps avec eux. Quand on aime les endroits, on leur donne du temps. Donc voilà, mon idée, c'était de donner du temps à la mer, mais aux côtes, aux endroits, aux gens qui vivent, qui habitent sur ces bords de mer. Donc c'est ce que je fais depuis maintenant 15 ans avec ce bateau. Et ma deuxième idée, c'était de partager mes histoires. J'avais navigué toute seule, j'ai adoré ça. Je partageais en revenant. Mais je me disais, c'est bien aussi de partager sur le moment. Et c'est bien aussi que des gens différents m'amènent des choses. Donc voilà, donc c'était ouvrir le bateau à des non-marins, qui peuvent être des écrivains, puisque j'ai eu la chance de naviguer avec Eric Orsenna, mais des photographes, puisque j'ai eu la chance, par exemple, d'emmener Vincent Munier à bord, des alpinistes, des tas de gens différents qui enrichissent ces voyages.
Comment ça s'est décidé avec Eric Orsenna de faire un bout de route ensemble ?
En fait, on s'est rencontrés autour d'un projet que j'avais qui n'a pas marché, comme quoi des fois, c'est des échecs naissent des choses, qui était un projet autour de l'Antarctique, et il avait, lui, comme un rêve de gosse, l'idée d'aller en Antarctique. Et quand ce projet d'aller là-bas, avec, alors c'était un gros projet, il fallait un cargo, etc., n'a pas marché, Eric était très déçu, et en gros, il m'appelait tous les mois ou tous les 2 mois en me disant « quand est-ce qu'on part ?» Et je disais « mais non, Eric, on part pas, parce que j'ai pas trouvé de sous. » Et quand j'ai acheté ce bateau, je lui dis « bah écoute, Eric, tu veux vraiment y aller ?»« Bah voilà, on va y aller, je t'emmène, on y va, mais on y va avec beaucoup moins de confort, parce que on n'aura pas un grand bateau, mais on aura un petit voilier d'une quinzaine de mètres, ce sera peut-être moins confortable, mais comme Eric est un marin, ben, il a relevé le défi.
Est-ce que c'est lui qui vous donne le goût d'écrire, puisque vous commencez, une fois de retour à terre, à écrire avec un premier livre en 2006, Kerguelen, le voyageur au pays de l'ombre, où vous parlez du chevalier de Kerguelen de Trémarec, cet homme chargé par Louis XV d'aller découvrir la Terra Australis, où vous plongez dans cette histoire-là. Et puis, avec Eric Orsenna, vous écrivez ensemble Passer le Nord, vous écrivez un premier roman, et puis un deuxième. Je vais tout de suite à ce deuxième, puisque vous nous parlez de l'exploration des terres que vous prenez le temps de visiter, et notamment la Patagonie, que vous décrivez dans L'Amant de Patagonie, paru en 2012, chez Grasset. Combien de temps vous y restez ? Comment vous vous documentez sur cette Patagonie du 19e siècle ?
Bah déjà, je vais y naviguer pendant 7 ans, entre la Patagonie, l'Antarctique et les îles australes. J'adore ces paysages, j'adore ces endroits, je les trouve à la fois extrêmement beaux, même s'ils sont un petit peu sévères parfois, et porteurs d'un imaginaire incroyable. Tout le monde rêve de la Patagonie, pour tout le monde ça signifie l'aventure, pour moi aussi. Et puis au hasard des balades sur les plages, des fois vous tombez sur des pointes de flèches. Des fois, vous tombez sur des espèces de petits creux dans le sable qui sont les témoignages d'anciennes cabanes des Yamanas et des peuples de la mer qui vivaient là, qui ont totalement disparu. Et vous rêvez aussi à ces gens, à leur vie extrêmement rude, mais à la façon dont ils avaient d'apprivoiser ces territoires et de vivre et d'être dans ces territoires. Donc voilà, tout ça m'inspire et je vais m'intéresser, au fond, parce que moi je suis une Européenne, à ce qui se passe quand les premiers Européens arrivent ici et qui rencontrent les Indiens. Une rencontre qui va évidemment mal finir, pour les Indiens en tout cas. Et j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler, d'abord c'est une forme d'hommage pour ces peuples que de parler d'eux. C'est aussi toute la question de l'autre, toute la question de ces incompréhensions qu'il y a pu avoir malheureusement un peu partout de par le monde entre des peuples qui avaient des cultures totalement différentes, qui se comprenaient pas, et qui se sont très rapidement méfiés les uns des autres et qui se sont assez rapidement fait la guerre, en sachant que bien sûr les Européens étaient infiniment plus forts, avaient une société, une civilisation beaucoup plus structurée et une technique beaucoup plus forte, et que donc ils ont exterminé petit à petit les Indiens. Mais voilà, j'avais envie de rendre cet hommage à ces peuples.
Est-ce que vous aviez à disposition des journaux de missionnaires, des comptes rendus de missions scientifiques dont vous êtes aidé?
Oui, il y a eu un certain nombre de récits faits par les Européens. Il y a eu quelques récits qui ont été enregistrés par des ethnologues, en particulier des traditions qui se rapportaient à la vie des Indiens, même si on en a perdu beaucoup. Donc j'ai passé 2 ans à peu près à me documenter sur tout ça. En France, il n'y a pas énormément de choses, à part les voyages de la Romanche à la fin du 19e. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que c'est quand même assez passionnant. Et j'ai retenu, par exemple, qu'il y a des traditions qui racontent, du point de vue des Indiens, l'arrivée des Européens, et où ils ont l'impression que les bateaux sont des baleines. Et ils disent, qu'est-ce que c'est que ces baleines avec des arbres qui leur poussent sur le dos? Donc les arbres, c'est les mâts. Et des drôles d'oiseaux de toutes les couleurs qui sont accrochés dans ces arbres. Et les oiseaux de toutes les couleurs, ce sont les marins qui ont des costumes bleus et rouges. Donc c'est vrai que quand on entend ça, on se dit, waouh, quel abîme entre ces deux sociétés.
Vous avez pris le soin de faire relire votre manuscrit par un historien suisse qui vit sur place et qui a simplement relevé une petite présence anachronique d'un lézard.
Voilà, et voilà. qu'il n'y a pas de lézard, en tout cas pas dans ces endroits-là. Mais voilà, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible.
Vos explorations ont nourri vos convictions. Et nous parlerons demain, Isabelle Autissier, de votre engagement, notamment comme présidente de WWF France. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Julie Gacon avec Isabelle Autissier. À voix nue, réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.